Bon, évidemment, les mots nous manquent, Karine, depuis quelques jours en lien avec ce terrible drame qui s'est déroulé du côté de Granby, et on se pose de sérieuses questions. La population du Québec est vraiment ébranlée par le décès de cette fillette de 7 ans.
Bien, je vois l'ensemble des témoignages, puis on avait envie d'en parler ce matin avec un expert, Joël Monzé, docteur en neurosciences. Bonjour, Monsieur Monzé.
Bonjour.
Bonjour.
Je nous sens collectivement très, très ébranlés. Pour plusieurs, on réagit de toutes sortes de façons, que ce soit par la colère, par l'impuissance et même parfois par une tristesse, une grande tristesse. C'est sûr qu'on a de l'empathie par rapport à tout ça, mais parfois, ça va même un peu plus loin. J'aimerais qu'on aborde ça.
Oui, mais en fait, on ne peut pas entendre ce genre de nouvelles-là en restant insensible. Ou alors, c'est un signal qu'on a besoin d'aide, parce que normalement, on ne devrait pas être insensible à une histoire comme celle-là, parce que quelque part, tôt ou tard, ça va réveiller des situations que nous-mêmes, on a vécues ou pour lesquelles on a été témoin, éventuellement dans notre enfance, ou même encore aujourd'hui, comme adulte, on est témoin de jeunes qui sont en souffrance.
Et c'est quoi un peu les symptômes qu'on devrait surveiller, en fait, justement, si ça prend trop de place?
Mais je ne sais pas si ça prend nécessairement trop de place. Je pense que, quelque part, souvent, on a vécu des choses dans notre enfance et elles sont enfouies. Notre cerveau, pour nous protéger, va enclaver un certain nombre de souvenirs qui ont été très, très douloureux. Et dans un moment comme celui-ci, eh bien, ça peut faire... Il y a une résonance avec l'histoire de la petite fille et ça peut faire remonter, en fait, des souvenirs qui nous appartiennent, qu'on a vécu durant notre petite enfance ou notre enfance ou notre adolescence. On a tous vécu des moments où nos parents ont été maladroits, voire éventuellement abusifs. On a eu des professeurs qui étaient en détresse. On a eu des copains et des copines qui ont fait de l'intimidation. Donc, il y a une blessure. En fait, on est presque tous. On a des mémoires, justement, où on n'a pas été compris, on n'a pas été entendu, on n'a pas été suffisamment aimé comme on l'aurait voulu. Et quand ça remonte, il faut juste l'accueillir. Et si, éventuellement, on est en pleurs, ben, c'est une bonne chose, parce que le pleur est une des meilleures manières, en fait, de faire relâcher la pression. Et souvent, on voudrait sécher les larmes très vite, aussi bien chez nos enfants que chez nous-mêmes, alors qu'au contraire, non, laissons-les couler, ça fait du bien, ça fait relâcher le système, et notre cerveau, à ce moment-là, va se sentir beaucoup mieux, va désenclaver même certaines mémoires pour être capable d'en faire quelque chose de constructif éventuellement.
Comment on gère le sentiment d'impuissance?
Mais en fait, c'est d'accepter. Je pense que la première chose, c'est que quand on se sent impuissant, souvent, il y a de la colère qui va venir. La colère, c'est une part de résilience et c'est une émotion qui nous permet, en fait, de nous relever quand on est impuissant. D'accord? Donc, si on n'arrive pas à lâcher prise sur la situation, la colère peut être une solution. Le seul danger de la colère, c'est se nourrir de la colère ou de décharger notre colère. Mais sinon, la colère peut revenir. Et puis, quelque part, je pense qu'il y a énormément d'enfants qui souffrent encore aujourd'hui. Bien souvent, on va éteindre des symptômes avec des médicaments parce qu'on voudrait tellement qu'ils réussissent leur vie, tellement qu'ils réussissent bien à l'école, qu'on n'entend pas leur détresse, on n'entend pas leur souffrance. Eh bien, je crois que moment comme aujourd'hui, ça nous permet de nous rappeler il y a combien d'enfants qui sont en souffrance aujourd'hui. Il y a des statistiques qui montrent que 28% des jeunes de 4 ans sont vulnérables dans au moins une sphère de leur développement. On sait que quand on regarde les statistiques autour de 14 ans, 23% des enfants sont sous médication, enfin sont avec un TDAH ou 17% avec l'anxiété généralisée. Donc on a 40% de jeunes qui là aussi est en détresse. Donc c'est certain que la détresse elle est tout autour de nous. Notre monde n'a pas nécessairement de sens. On sait qu'on fait des choses, on décide des choses qui n'ont pas de sens. Et c'est ça qui remonte dans une histoire comme celle-là. C'est un appel, en fait, à essayer de construire quelque chose de positif au départ d'un drame qui est effroyable.
Docteur Monzé, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. On a comparé l'histoire à Aurore, l'enfant martyr, qui date des années 20, précisément. Comment peut-on agir de cette façon-là à l'égard d'un enfant qu'on a mis au monde, qu'on aime et qu'on veut chérir et diriger dans le droit chemin le plus possible?
Mais en fait, il y a des choses. Il y a, premièrement, il y a notre histoire. Si on n'est pas en paix avec notre propre histoire et qu'on a été violenté quand on était enfant ou qu'on était adolescent, il y a un risque, en fait, qu'on n'ait pas nécessairement les ressources pour pouvoir gérer les moments de tension. ou qu'on reproduit simplement ce que nos parents. C'est pas de la génétique, c'est vraiment une habitude qu'on reproduit. C'est la manière dont on éduque les enfants et on fait pareil de génération en génération, malheureusement, parfois. Donc ça, il y a ce côté-là. Et ça, ça se corrige, en fait, en faisant du développement personnel ou en faisant de la psychothérapie, parce que ça permet justement de remettre un peu d'espace là-dedans. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont être dans une situation où leur résonance émotionnelle est tellement affectée qu'ils en perdent complètement leurs moyens. Et c'est comme s'ils réagissent vis-à-vis de l'enfant, comme si l'enfant était un tigre sauvage au lieu de voir l'enfant en détresse. Et je trouve ça d'ailleurs assez effrayant quand je lis la plupart des textes qu'on voit sur les enfants dans des revues populaires. On va parler du Terrible Two, on va parler du Fucking Four, on va parler du Pré-Indo. C'est toujours très méprisant, premièrement, envers l'enfant. Et deuxièmement, l'adulte se sent souvent victime de l'enfant. C'est comme si on inversait les deux choses. Et quelque part, c'est certain que quand l'adulte se sent impuissant face à un enfant qui est un peu plus résistant ou face à un enfant qui n'accepte pas de suivre immédiatement l'ordre qu'on lui donne, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir une réaction comme si on était dans le bois en train de lutter contre un animal sauvage. Donc, on ne voit plus l'enfant. Intellectuellement, on sait que c'est un enfant, mais émotionnellement, le corps, le comportement se met à fonctionner comme si c'était un animal sauvage. Et ça, de nouveau, c'est un besoin d'aide urgent parce que ça peut aller très loin, malheureusement.
Il n'y a pas d'école pour devenir parent. Vous nous parlez, ce que vous nous dites, vous nous apprenez des choses ce matin. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de références. Le travail d'un parent, c'est effectivement d'aller chercher de l'aide. Mais le fait qu'il y ait une hausse des signalements des enfants en détresse à travers le Québec dénote que les parents vont pas bien.
Non, pas du tout. Et je crois que l'erreur, tantôt je parlais des statistiques par rapport au TDAH entre autres, c'est qu'on a toujours dit, les enfants, s'ils ont des problèmes, c'est une cause génétique, donc nous, les adultes, on n'a pas de problème. Non, c'est pas vrai. C'est très rare que la cause génétique peut expliquer notamment le TDAH ou le comportement d'opposition ou d'autres problématiques qu'on peut voir chez nos jeunes. Souvent, c'est parce que le jeune grandit dans un environnement qui n'est pas sécurisant pour lui. Mais si l'environnement n'est pas sécurisant, c'est parce que les adultes sont en détresse. Et tant et aussi longtemps qu'on a essayé de pelleter la neige en avant, il y a un moment donné où le tas de neige est beaucoup trop gros devant nous. Donc il va falloir qu'on s'adresse, il va falloir qu'on prenne des moyens pour arriver à prendre soin de nous, pour arriver en fait à se voir aller et créer des vies, créer une vie qui a du sens. Et il y a trop de gens qui ont des vies, ils font leur possible, ils font leur meilleur et ils sont éventuellement même obligés de prendre des antidépresseurs pour pouvoir tenir la route. Mais beaucoup de personnes ont une vie qui n'a pas de sens parce qu'ils ne font pas ce qu'ils avaient envie de faire, parce qu'ils ont de la difficulté à mettre en place ce dont ils ont besoin pour pouvoir être heureux, où on est beaucoup dans la possession des choses, mais en même temps, on est tous très conscients que ce n'est pas parce qu'on possède une grosse voiture ou une grosse télé qu'on va être plus heureux. On va peut-être être heureux pendant 10 minutes, mais ça va très vite. Donc, en fait, quelque part, c'est un appel à la vie, c'est un appel à « Hey, qu'est-ce qu'on fait, nous, de notre société? Comment est-ce qu'on vient en aide aux enfants? » La DPJ, c'est une solution, mais il y a tellement de choses qui peuvent se faire à l'intérieur des familles. Si vous saviez le nombre de fois quand je fais des conférences ou des salons, que j'ai des grands-parents qui viennent me voir et qui se sentent terriblement impuissants par rapport à la détresse qu'ils voient encore chez leurs enfants, mais se font dire, ben toi, t'as plus rien à voir là-dedans, t'es le grand-parent, fous-moi la paix. Éventuellement, garde un peu mes jeunes de temps en temps, mais il n'y a plus cette communauté ou il n'y a pas cette communauté qui ferait en sorte que, quand un parent est en difficulté, il peut s'appuyer sur d'autres personnes.
Et ça prend tout un village pour élever un enfant.
Exactement.
Ça, on n'est plus appuyé comme on devrait l'être. Mais grâce à votre expertise ce matin, au moins, vous nous éclairez, vous nous amenez sur des pistes de réflexion.
Plus,
parce qu'il faut se pencher là-dessus. C'est l'avenir de demain, nos enfants, c'est nos petits trésors. Tout le monde fait son possible, mais effectivement, parfois, il y a un peu de ménage à faire dans chacun de nos vies.
Oui. Joël
Monzé, docteur en neurosciences, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous ce matin et peut-être de nous amener un peu, un peu d'apaisement
peu
là-dedans.
Oui, un peu un baume sur le bobo, comme on dit.
Oui, ce que j'aurais envie de dire, en fait, c'est que les personnes qui ont vécu des situations comme ça quand elles étaient plus jeunes ou qui ont vu leur conjoint agir comme ça avec leurs enfants, essayez d'être en paix avec votre histoire. Essayez d'apprendre à être en paix et de voir les choses qu'on peut faire constructives au départ de situations qui parfois n'ont absolument pas de sens.
Merci beaucoup.
À vous.
Au revoir.